France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, la Grande Loge de France. Bonjour à toutes et à tous. Notre émission de ce jour sera consacrée à Notre-Dame de Paris. Souvenez-vous, en avril 2019, elle prenait feu. Nous étions tous sidérés. Le grand maître de la Grande Loge de France écrivait alors « Notre-Dame appartient à l'histoire. Elle porte en elle l'universel. Elle est le symbole de la connaissance et du génie humain. Elle est le témoin vivant, au-delà des flammes, de ce qui rapproche les hommes et les femmes, quelles que soient leurs origines ou leurs confessions. » 5 ans après, nous venons de vivre sa renaissance. Et ce monument nous dit beaucoup. Pour nous en parler, nous recevons une spécialiste de cette cathédrale et de ce monument historique, Marie-Yvonne de Saint-Pulgent. Chère Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, bonjour.
Bonjour Clément Ledoux.
Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, vous êtes haut fonctionnaire, essayiste, vous avez été directrice du patrimoine au ministère de la Culture et vous présidez actuellement le comité d'histoire de ce ministère. Vous êtes l'auteur de ce livre remarquable, publié chez Gallimard, « La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir ». Un ouvrage passionnant, érudit, largement documenté et illustré, qui a reçu de nombreuses récompenses et notamment le prix Victor Hugo cette année. Alors je le disais, nous venons tous de vivre des heures extraordinaires avec la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, vous qui connaissez si bien ce monument, quel est votre sentiment aujourd'hui et que nous dit cette émotion populaire et cet engouement mondial ?
Oui, la réouverture est un événement planétaire comme l'a été l'incendie lui-même. On a là les deux pôles de cette séquence très intense sur la restauration de Notre-Dame. On a cru qu'on n'arriverait pas à la sauver. On s'est demandé si on arriverait à la restaurer. Donc il y a une formidable émotion qui est à la fois la fierté d'y être arrivé, l'émotion de la revoir. Alors plus belle qu'avant, j'en suis pas sûre, mais plus claire qu'avant, ça c'est sûr. Plus éclatante, éblouissante de lumière et de blancheur. Et je crois que les cérémonies ont été particulièrement émouvantes, à la fois le rite, la musique avec le réveil de l'orgue et le monde entier était là. On en a la preuve avec la présence de Donald Trump qui était là au début de l'incendie, qu'il avait signalé, s'était signalé, qu'on avait parlé tout de suite et qui a tenu à revenir. Sa mesure, c'est une bonne mesure de l'émotion mondiale, n'est-ce pas, qu'un dirigeant populiste tienne à être présent.
Et cette mobilisation, elle était aussi financière, avec des dons importants.
Oui, plus de 350 000 donateurs venant de 190 pays. 40 000 d'entre eux viennent justement des États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'il y a une très forte population catholique, minorité catholique aux États-Unis, mais ils ont cru voir recommencer l'incendie des Twin Towers.
Et je tiens à préciser que le fonds de dotation de la Grande Loge de France, Fraternité et Humanisme, a participé aussi à cet effort financier pour la reconstruction de Notre-Dame.
Oui, elle a fédéré beaucoup de religions différentes. Je suis invitée en Serbie pour en parler. La Serbie, qui est un pays orthodoxe, a également financé la restauration. L'État serbe. Mais les chefs de beaucoup de religions se sont manifestés immédiatement. Ce ne sont pas les catholiques qui se sont manifestés en premier. Je parle de la hiérarchie catholique.
Alors vous le disiez, Notre-Dame réapparaît aussi radieuse que jamais, plus belle sans doute encore. Elle renaît de ses cendres, c'est quand même particulier. L'incendie de 2019 lui a offert presque une nouvelle place et une nouvelle vie.
Une nouvelle place, oui, une nouvelle sainteté. Vous voyez, il manquait, je me suis permis de le dire, il manquait à la cathédrale Notre-Dame la couronne du martyr. C'était une cathédrale un peu trop heureuse. Elle n'avait pas trop souffert. Elle n'avait pas souffert des guerres de religion du tout. Elle n'avait pas beaucoup souffert de la Révolution. Elle avait échappé à l'incendie. Elle était royale, admirée, respectée, mais pas forcément très populaire. L'incendie lui a donné une nouvelle dimension, plus proche du peuple. Ce qu'on a cru perdre, on y tient beaucoup. Et en plus, tout le monde a participé, enfin le peuple a participé, donc c'est un peu devenu la cathédrale du peuple.
Alors vous avez écrit ce livre vraiment passionnant, La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir, et vous nous dites combien nous avons besoin d'un lieu qui s'inscrit dans la longue durée, d'un lieu marqué par le sacré où la nation se retrouve. Alors nous disons parfois que c'est avec les lumières du passé que l'on peut avancer et se projeter dans l'avenir. Finalement, Notre-Dame nous dit quelque chose aussi de notre mémoire.
Oui, mais la profondeur historique de Notre-Dame. Alors, il faut d'ailleurs distinguer dans Notre-Dame le diocèse, enfin l'institution diocésaine, et le monument, la cathédrale gothique. En fait, la profondeur de Notre-Dame, elle date d'avant la cathédrale gothique. D'abord, c'est la cinquième cathédrale sur l'île de la Cité, la première cathédrale, quatrième siècle quand même. Et la célébrité de Notre-Dame, la célébrité européenne de Notre-Dame, elle est acquise avant la construction de la cathédrale gothique par la célébrité de son école, de l'école cathédrale, qu'on appelle l'école cathédrale, qui est la mère de l'Université de Paris. L'Université de Paris, au XIIIe siècle, se détache de l'école de Notre-Dame, mais elle est restée jusqu'à la Renaissance. Le chancelier de l'université, c'est le chancelier de Notre-Dame, c'est-à-dire un chanoine de Notre-Dame.
Oui, cette gloire intellectuelle de Notre-Dame va bien au-delà même de la théologie, l'enseignement des arts libéraux.
Oui, c'est l'ensemble des arts. C'est une école, c'est les écoles que le Charlemagne a obligé chaque cathédrale à ouvrir pour tout le monde. C'est la différence avec les abbayes qui sont ouvertes qu'aux clercs. Mais la célébrité de l'école de Notre-Dame, elle est aussi philosophique. Le grand maître, le plus ancien grand maître célèbre de l'école de Notre-Dame, c'est Abélard. Hein. Et Abélard, évidemment, se fait connaître par la philosophie. Il est d'ailleurs une philosophie tellement avancée qu'il sera, il mourra opportunément pour échapper à un procès en hérésie. Hein. C'est le père de la scolastique, quand même. Mais ce n'est pas le seul. Il y a des très grands maîtres qui se succèdent les uns après les autres, qui ont été très importants pour l'établissement du dogme catholique. Par exemple, le sacrement de la confession a été littéralement inventé à Notre-Dame. Le purgatoire a été inventé à Notre-Dame, c'est ce que raconte Jacques Le Goff. Et puis, dans les développements intellectuels de Notre-Dame, encore une fois, la mère de l'Université de Paris, c'est l'invention de la polyphonie mesurée qui est à l'origine du développement de la musique occidentale, qui fait partie à l'époque de la liturgie et qui est un art extrêmement intellectuel.
Donc une école qui va vraiment largement au-delà de la simple théologie. Les francs-maçons, justement, de la Grande Loge de France, vous le savez, sont très attachés à la laïcité, celle qui laisse chaque frère libre de sa pratique, et une laïcité respectueuse des convictions religieuses et spirituelles de chacun. Notre-Dame, dans une certaine mesure, réussit à devenir politique, peut-être même laïque, et à tous nous réconcilier. Quelle est cette force spirituelle et sacrée commune à tous qui s'incarne en elle ?
Alors, Notre-Dame est un lieu historique très important pour notre histoire politique parce que c'est le lieu où se réunissent pour la première fois les États généraux en 1302. Donc, évidemment, c'est le début du gouvernement représentatif. Alors, c'est fait pour s'opposer au pape. Hein. C'est Philippe le Bel qui réunit trois ordres pour s'opposer aux volontés du Saint-Siège. Mais de mettre en lisière l'Église de France et le roi. Mais quand même, c'est extrêmement symbolique. C'est évidemment tout à fait fondamental dans notre histoire politique, la construction de notre institution politique. Et tout au long de son histoire, elle a servi comme ça de lieu de confortation de l'État français. Néanmoins, c'était la paroisse des rois. C'était la cathédrale des rois. Donc évidemment, le passage à la République, et la République laïque encore plus, devient problématique. Autre moment très important aussi dans l'histoire du gallicanisme, c'est le Concordat quand même de 1802. Alors je ne parle pas du sacre de Napoléon en 1804, mais la célébration du Concordat dans la cathédrale, là aussi. Mais voilà, il fallait qu'elle trouve sa place dans le rituel républicain. Il y a un moment très difficile, tout de suite après la loi de 1905, évidemment. Le gouvernement ne veut pas y aller. Alors elle a été réintroduite dans le rituel républicain par la guerre de 14-18 parce que, historiquement, c'est le lieu de célébration des héros de la patrie. Les héros de la défense du territoire, mais aussi les héros civils. Il ne faut pas oublier les funérailles de Pasteur au 19e siècle. Pasteur, quand même, le sauveur, le grand savant français qui a quand même prolongé la durée de vie de tout le monde hein, par ses découvertes fondamentales.
Vous évoquez rapidement la loi de 1905, mais elle prend une actualité étonnante, cette loi de 1905.
Oui. Alors, c'est vrai, mais la loi de 1905, oui, elle est actuelle à cause du débat sur la visite libre. Mais le législateur de 1905, déjà, quoi qu'il ne soit pas encore réconcilié avec la cathédrale, a déjà cette vision. Les églises sont des propriétés publiques, elles sont exclusivement affectées au culte, mais c'est aussi le patrimoine commun de la nation. Donc, elles sont ouvertes à tous, croyants, non-croyants. Il ne faut donc pas taxer l'entrée. Il faut que ça reste la propriété commune. Elle appartient à tous. Et c'est très important de se souvenir que c'est ça l'esprit de la loi de 1905. Revenir dessus, c'est pas seulement modifier un bout de la loi, c'est modifier son esprit. Et cette appartenance commune à tous a permis la réintégration, a facilité la réintégration de Notre-Dame dans le rituel républicain parce que je pense que la République, même laïque, a besoin de sacré. Elle a besoin aussi d'un lieu d'union, de réunion. C'est ce qu'on a beaucoup vu dans les cérémonies du dernier week-end. C'est ce lieu où la nation se retrouve. C'est ce qu'on a vu aussi après les attentats de 2015. Tous, croyants ou non-croyants, ont commémoré et se sont recueillis autour de ces attentats pour se réunir à nouveau.
Alors, en effet, nous avons assisté à une extraordinaire renaissance de Notre-Dame par un chantier. Il faut le rappeler aussi, qui a mobilisé des milliers d'hommes et de femmes pendant 5 ans. Le président de la République a rappelé dans son discours tous ces corps de métier, les artisans de la pierre et les maçons, bien sûr, mais aussi les plus rares dinandiers et taillandiers. Le président a aussi évoqué cette fraternité qui a glorifié le travail et le bien commun. Tous ces bâtisseurs nous transmettent une leçon d'humanisme extraordinaire, Marie-Vonne de Saint-Pulgent.
Oui, en ce sens, le chantier rappelle celui du XIXe siècle avec Viollet-le-Duc, qui avait poussé plus loin encore cette logique, parce que les maîtres d'œuvre, les artisans et les qui ont travaillé avec Viollet-le-Duc ont travaillé, ils logeaient au même endroit, ils se sont réunis vraiment en famille. Viollet-le-Duc avait voulu rappeler les fabriques de cathédrales, l'esprit des loges de cathédrales, cette fabrique non, qui s'appelait des loges, et de réaliser quand même cet esprit d'équipe qui a fasciné le Bauhaus. Le Bauhaus s'est inspiré du chantier de Viollet-le-Duc pour mettre en place ses ateliers de tout métier, et c'est un des héritages méconnus en France de Viollet-le-Duc. Je pense que le chantier contemporain a rappelé ça, alors dans une dimension quand même industrielle, qui la famille était quand même très très large. Hein. Mais et puis, ça n'a pas duré 20 ans comme du temps de Viollet-le-Duc, mais seulement 5 ans. Néanmoins, on a retrouvé cet esprit de fraternité, c'est vrai, et puis la fierté du travail bien fait. C'est un des grands, n'est-ce pas, une des grandes attirances que exerce le patrimoine sur tout le monde, c'est aller voir le travail bien fait.
Et un très beau message dans ce chantier, en effet. Alors, dans votre livre, vous réhabilitez d'une certaine façon Viollet-le-Duc. Les francs-maçons ont aussi un rapport très particulier à la tradition. Le procès en réinvention de la tradition de Viollet-le-Duc, les sources étaient...
Oui, alors en fait, Viollet-le-Duc fait partie de cette génération romantique qui interprète aussi les cathédrales en général et Notre-Dame en particulier, avec un message, la conviction que les maîtres d'œuvre médiévaux en fait voulaient diffuser un autre message que le message chrétien, un message un peu pré-démocratique. Pré-républicain. Alors, ça a été une interprétation discutée qui est propre, qui est commune à Michelet, Victor Hugo et Viollet-le-Duc. Hein, que ces trois-là pensent de la même façon. Hein. Alors, c'est dans le roman Notre-Dame de Paris que vous avez le développement le plus important là-dessus, puisque la liberté de l'architecture est assimilée par Victor Hugo à la liberté de la presse, ce qui va quand même un peu loin, n'est-ce pas ? Bon, alors, ça n'a pas été accepté toujours par l'époque. Et puis, il y a un autre message dans le roman de Victor Hugo. Alors, je ne suis pas sûre que Viollet-le-Duc le partage, là. C'est le message que Notre-Dame porte une parole un peu, comment dire, occultiste. Et là, il interprète un texte du XVIIe siècle qui parlait de l'hermétisme du message de Notre-Dame, un hermétisme chrétien qui, sous les romantiques, devient un message occultiste.
Mais alors, parlons-en, Notre-Dame est un vrai livre de pierre pour qui veut ou qui sait la lire. Et vous savez combien les francs-maçons sont sensibles à cette dimension. Et en effet, dans votre ouvrage, vous abordez cet aspect.
Mais le fait que ce soit un livre de pierre, c'est sûr. D'ailleurs, Michelet le dit expressément. Il dit même que la structure architecturale de la façade fait penser à un livre, ce qui est très juste. Mais en plus, il y a un message dans la pierre. Un message qui a, semble-t-il, un double niveau de lecture dès le Moyen-Âge. La lecture pour le peuple, qui est illettré, qui apprend l'évangile par la statuaire, et puis la lecture pour les clercs, donc où le symbole est beaucoup plus profond, secret et tout. Et c'est ça qui est réinterprété au XVIIe siècle, mais à la lumière de la littérature hermétique.
Alors, je ne l'ai pas précisé en vous présentant, mais Marie-Vonne de Saint-Pulgent, vous êtes aussi musicienne, pianiste. Il y a dans Notre-Dame une dimension musicale, et notamment son orgue, qu'on a évoqué tout à l'heure. Avec les cérémonies de réouverture, on a aussi vécu ce réveil de l'orgue, orgue, instrument sacré, un instrument qui nous dit aussi quelque chose peut-être du souffle et de l'harmonie de ce monument.
Ah bah oui, d'abord, les cathédrales sont faites pour résonner aussi. Au Moyen-Âge, c'est la voix, et à partir du 15e, 16e siècle, c'est l'orgue. Et l'orgue à Notre-Dame a une très grande histoire. Elle a de très grands noms dans son histoire de l'orgue. L'actuel orgue a été mis en place par le Viaduc, l'orgue Cavaillé-Coll. L'orgue précédent, l'orgue Le Cliquot, avait une très grande célébrité à partir du début du XIXe siècle. Et la musique à Notre-Dame, c'est extrêmement important. On l'entend sous la Révolution pour célébrer les premières grandes étapes de la Révolution. On y chante le Veni Creator pour célébrer quand même les états généraux. Hein, c'est étonnant. Et par la suite, il y aura la messe du sacre. Enfin bon, il y a toute une histoire de la musique à Notre-Dame. Ce qui est aussi important à rappeler, c'est l'effet effectivement de l'orgue à Notre-Dame de Paris. Alors, il ne faut pas oublier, par exemple, la mauvaise interprétation de la conversion de Claudel. Claudel ne se convertit pas parce qu'il a vu la Vierge du pilier. Il se convertit parce qu'il a entendu les vêpres chantées par les enfants accompagnés par l'orgue. C'est ça qui le convertit, c'est la musique.
C'est la musique. C'est la musique et l'harmonie.
Et exactement. Et Viollet-le-Duc raconte une autre impression de ses 5 ans. Il entre à Notre-Dame, il entend l'orgue, il voit les vitraux, il croit que c'est les vitraux qui chantent. Ça le terrorise et en même temps, ça déclenche sa vocation.
Merci beaucoup, Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, pour cet entretien passionnant. Je rappelle votre ouvrage, La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir chez Gallimard. Et cet autre ouvrage, votre plume, Notre-Dame, vue par les peintres, aux éditions des Falaises. Pour conclure, vous le savez, nous évoquons à chaque émission une loge de la Grande Loge de France par son nom, nom qui n'est pas choisi au hasard et qui dit même beaucoup des frères, de l'histoire de notre obédience et même de l'histoire en général. Aujourd'hui, nous souhaitions rendre hommage à la loge Victor Hugo. Victor Hugo que nous avons évoqué évidemment avec son chef-d'œuvre Notre-Dame de Paris, véritable monument dans le monument. Mais il faut saluer aussi Victor Hugo, l'homme siècle, l'homme politique, le républicain, l'européen, le défenseur de la paix et de la liberté, l'immense poète de la légende des siècles et de Bose endormi. « Je suis une conscience, disait-il, conscience d'un siècle, de ses espoirs. » Victor Hugo, dont une loge de la Grande Loge de France porte le nom, et avec son nom, un idéal. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de la Grande Loge de France et les nombreuses conférences publiques sur notre site gldf.org. Le nouveau numéro de Point de vue initiatique, la revue de la Grande Loge de France, vient de paraître. Un numéro passionnant qui a pour thème « Les chemins de la connaissance ». C'était les divers aspects de la pensée contemporaine de la Grande Loge de France, une émission préparée et présentée par Clément Ledoux, à la technique aujourd'hui Alex Dang, à la réalisation Jean-Christophe Francis et à la préparation Claire Poinsignon. Très bon dimanche à tous.